Cool.
Ouais, voilà, super. Parce que comme ça, je n'ai pas besoin de l'envoyer, puis tu l'as.
Ouais.
Tu l'as tout de suite. Voilà. Donc, bah, Jean-Paul, tu veux dire quelque chose?
Bonjour. Jean-Paul. Non, j'ai rien de particulier. J'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont déjà gentiment versé des donations. Ça nous aidera pour le loyer. Et puis, donc voilà, merci beaucoup. Et puis, ceux qui peuvent, ben, volontiers, faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas de problème. On a fait une demande à la Mazopa Rinpoche, dans sa grande générosité, a proposé que les centres qui avaient des difficultés puissent faire une demande à un projet qu'il a qui s'appelle le Merit Box Project. Donc, c'est un projet qui se trouve au niveau de la FPMT. Et puis, donc on peut faire des demandes, par exemple, si on veut construire une stupa, par exemple, ce qu'on va faire bientôt, et d'autres projets. Et puis là, entre autres, il a proposé que les centres qui avaient des difficultés au niveau des loyers, au niveau financier, en fait, peuvent faire une demande. Alors, j'ai fait une demande et puis on verra ce qui se passera. Je vous redirai ce qu'il en est. Voilà.
OK. Tu veux dire un peu quelque chose pour Nicolas?
Oui, je peux te dire. Je pensais dire à. Moi, je peux dire maintenant. Alors, il y avait un week-end, un atelier en Empathy 2.0. Hein?
Tu peux dire plusieurs fois. Hein?
Ouais. Et puis, normalement, ce week-end aurait dû se passer, ben, bien sûr, ici au centre. Enfin, en premier à Sorens. Puis après, on a décidé de faire ici au centre Ganoundrupa parce qu'à Sorens, il y avait beaucoup trop d'activités. Et puis voilà, les circonstances font que la permanence est en mouvement. Et puis, on va le faire. En fait, Nicolas a proposé de le faire par Zoom également. Donc, il y a déjà sur le programme du site, il y a la possibilité de s'inscrire parce que lui, il demande qu'on s'inscrive directement chez lui. Donc, vous verrez, il y a un lien. Et puis, comme ça, après, il peut renvoyer les liens pour le week-end Zoom Empathy 2.0. Et puis, je vais mettre dans la newsletter de mai. Donc, la semaine prochaine, je fais une newsletter pour le mois de mai. Puis, je vous rappellerai tout ça, justement. Voilà. Et puis, Nicolas a dit aussi que les donations, lui, il ne veut pas de donations. Il aimerait que ça soutienne, en fait, le centre pour voilà, les difficultés qu'on rencontre actuellement au niveau des rentrées d'argent. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Lostang. Merci beaucoup, Séverine, pour tes méditations et puis ministre et tout ça. Puis, merci beaucoup à vous d'être là aujourd'hui. Demain, nous ne savons pas. Mais n'oubliez pas de l'histoire de la dixième pomme.
Ah oui, ça c'était super. Je me suis servi de ça hier quand j'ai donné... J'ai donné un talk sur la résilience. On dit résilience.
Ah. Oui.
Et tu vois, le mot, il n'a pas vraiment, il n'existe pas vraiment en allemand. Ça vient vraiment de l'anglais, parce qu'il y a 10 ans, moi, je savais pas ce que c'est la résilience. Ouais. C'est les Américains. Nous, c'est toujours les Américains. Ils commencent avec la Coca-Cola, avec les jeans. Ils commencent avec les resilience. Et puis, donc, on cherche un mot allemand, mais il n'y a pas de bon mot, parce que comme c'est normalement traduit, c'est Widerstandskraft. Et Widerstandskraft, il y a la force. Et Widerstand, ça veut dire, tu vois, si quelque chose vient de là, et moi, je pousse de là, c'est ça.
La résistance.
Je ne tombe pas, tu vois, c'est...
Hein?
Je ne tombe pas, je tiens contre. Mais ça ne veut pas du dire, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'on est assez flexible qu'après une fois que la tempête est finie, on revient. Quoi. C'est pas comme une chaîne qui tient et puis après, quand la tempête est trop forte, elle tombe.
Ouais.
Donc, resilience, c'est vraiment un bon truc. Resilience is like... C'est comme une éponge. Quand tu la presses, tu vois, elle est pressée, elle a perdu sa forme normale, mais le moment où tu la laisses, elle revient dans sa forme normale. Puis j'ai dit, ben, on peut déjà être comme une éponge, c'est super, mais il faut être encore mieux qu'une éponge, parce que l'éponge, elle apprend rien du tout pendant qu'on la tient comme ça. Tandis que nous, on peut apprendre quelque chose. Ouais. Tu vois, on peut même revenir dans une forme beaucoup plus forte et puis beaucoup plus, justement, beaucoup plus flexible. Parce que quand on voit la souffrance, eh ben, ça aussi, ça peut nous mettre en contact avec notre compassion. Peut-être aussi, tu sais, pour ceux qui étaient là ce matin comme Caro, en ce moment, on a quelqu'un qui vient ici, elle a un chien, que normalement, elle vient avec le chien au centre aussi, c'est un hush puppy. Et puis, elle doit l'endormir aujourd'hui. Tu vois, donc, on a fait la pratique avec le chien. Donc, le chien était là, donc on a chanté les mantras pour le chien. Donc, pour ça, le Zoom, c'est idéal, tu vois. Et puis, donc, elle est à la maison, le vétérinaire, il va venir. Moi, je vais allumer le Zoom, je vais faire la puja de médecine Bouddha pendant que le chien, il s'en va. Donc, tu vois, tout ce truc d'Internet et Zoom et tout ça, c'est pas... Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi des choses qui sont... Ça nous donne beaucoup, beaucoup plus de possibilités d'être là pour les personnes, pour les gens.
Tout à fait.
Et puis, je voulais dire encore, parce que j'ai envoyé un email avant-hier. J'ai envoyé un email à Geshe Sherab et puis je lui ai demandé est-ce qu'on peut mettre sa conférence ce soir sur le site. Et puis il a dit oui, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est assez facile de rentrer. Je vous ai mis le email, donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé, parce que quand vous allez dans le centre, après il y a une étiquette là qui dit Zoom link, vous cliquez dessus et puis vous y êtes déjà.
Okay.
Donc c'est facile. Voilà. Ok, donc lui, il va parler d'équanimité, ça va très bien avec notre... Ça va très bien avec ce qu'on fait maintenant, parce que c'est ce que je voulais faire aussi. Donc, je ne sais pas si on va faire la même chose, mais je pense qu'on va parler d'équanimité, mais on va aussi parler justement de ce mot compassion. Tu vois, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? C'est ça qui est important aussi. Parce que Chögyam Trungpa, il disait aux étudiants, ne pratiquez pas « idiot compassion ». Parce que aussi, tu vois, même bon, les autres, de toute façon, hein, les autres, quand ils parlent de bouddhistes, et puis ils voient un bouddhiste se mettre en colère, ou être attaché, ou être selfish, être égoïste, tout le monde est surpris. N'est-ce pas? Surtout quand vous vous mettez en colère, vous dites, mais t'es bouddhiste. Une fois, il y a les gamins qui m'ont demandé ça parce que je me suis mis en colère. Et puis, mais ils ont dit, t'es une nonne. Ils m'ont dit, mais t'es une nonne, t'as le droit de te mettre en colère. Tu vois, donc on a ces attentes. Donc, que les autres, ils pensent ça, ça, c'est pas grave. Mais quand vous commencez à penser ça, que vous devez toujours, parce que vous êtes bouddhiste, et vous pratiquez depuis, je sais pas, 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, et vous avez ces attentes envers vous, que vous devez toujours être en bonne humeur, vous devez toujours être gentil, il ne faut surtout pas contrarier les gens, parce que je suis en train de pratiquer la patience et tout ça. This is idiot compassion. Ça, c'est pas du tout ce que le bouddhiste dit, parce que le Bouddha, il a enseigné deux choses. Il a enseigné la compassion, avec qu'on est assez familier, parce que ça aussi, on apprend chez les chrétiens, et puis dans toutes les religions surtout, mais il a aussi enseigné la sagesse, et pas la sagesse de la vacuité, qu'il n'y a rien qui existe de son propre côté, mais aussi la sagesse des moyens habiles. La sagesse, par exemple, de dire « Don't forsake the happiness of one, of ten, for the happiness of one », en disant « Ne laisse pas tomber le bonheur de 10 personnes pour sauver le bonheur de une personne ». Ce qu'on fait souvent, parce que cette personne-là, on l'aime beaucoup, et puis l'autre, les 10, ben, on s'en fiche un peu, tu vois. Donc, pour nous, de pratiquer la compassion, Ça ne veut pas dire qu'on dit toujours oui et puis qu'on laisse tout le monde faire ce qu'il veut faire. Le problème, c'est que, parce que peut-être jusqu'à maintenant, on avait cette idée, en étant bouddhiste, il faut faire ça. Le problème, c'est que quand on dit oui, mais il faut avec force dire quand quelque chose ne va pas bien, ou il faut même avec force faire quelque chose pour arrêter quelqu'un. Le problème, c'est que notre ego, quand il entend ça, il dit « Ah, ok, ah, peut-être que je peux quand même me mettre en colère, ah, peut-être que je peux quand même pas aimer cette personne, parce que je pratique pas la compassion idiote, moi je pratique la compassion avec sagesse. » Et puis on fait de sorte que, tu sais, on how to say, we fake. On fait semblant qu'on le fait pour l'autre. Mais si on est vigilant, on regarde ici dedans, ce n'est pas du tout pour l'autre. Tu vois, donc, se mettre en colère envers quelqu'un qui fait quelque chose de négatif. Donc, la colère, c'est quand on parle de colère dans le bouddhisme, on parle d'une colère obsessive. On parle d'une colère qui a raison, tu vois. Quand on dit c'est nocif, on dit nocif.
Oui.
Nuisible, nocif. Une colère qui est une émotion négative. La colère, l'énergie de la colère, ça devient négatif quand la vue est vraiment comme ça. Et puis qu'il m'a fait du mal à moi ou à mes amis ou il aide mes ennemis. Tu vois, ça, c'est... Et puis bon, après, les Tibétains, parce qu'ils ont beaucoup de temps, ils parlent de 9 sortes de colère. Donc, ils prennent aussi les 3 temps. Tu vois, donc, il m'a fait du mal maintenant. 1. Il m'a fait du mal déjà avant. 2. Il va me faire du mal dans le futur. Donc, il fait du mal à ceux que j'aime bien. Il a fait du mal dans le passé à ceux que j'aime bien. Il va faire du mal à ceux que j'aime bien dans le futur. Donc, ça fait 6. Après, il a aidé mes ennemis. Il a, avant aussi, dans le passé, aidé mes ennemis. Et puis, il va aider mes ennemis dans le futur. Donc, souvent, quand on regarde, au fait, c'est ça la cause de notre colère. Mais pour voir qu'on peut se servir de la force, je pense... il faut voir si cette personne envers qui je me mets en colère maintenant, si ça serait quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup et quelqu'un, je tiens à que cette personne, elle m'aime aussi. Est-ce que je réagisserais de la même façon? Critiquer quelqu'un, est-ce que si c'est Jean-Paul, est-ce que je dirais la même chose?
Pas intérêt.
Hein?
On n'a pas intérêt à me critiquer.
Vous avez entendu, hein? Il ne va plus vous aimer après. Il va vous jeter de son cœur. Il ne peut pas jeter les gens de son cœur. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous croyez, je dirais exactement la même chose à quelqu'un que j'aime bien, et que ce n'est pas seulement moi j'aime bien, c'est plutôt « j'aime bien que l'autre personne, elle m'aime bien aussi ». Vous comprenez ce que je veux dire? L'attachement, l'amour attaché. Je tiens à ce que cette personne, elle a une bonne opinion de moi, parce que sinon, elle ne va plus m'aimer. Je tiens à cette personne, elle est intéressée à moi. Donc, si on réagissait de la même façon contre cette personne-là, c'est OK de... critiquer l'autre personne. Vous comprenez? Ou encore mieux, si cette personne serait mon fils ou ma fille, tu vois, on va dans une direction très très pure quand il s'agit des enfants. Parce qu'avec les enfants, si vous êtes un parent intelligent et aimant, en plus, il y a les deux choses qui viennent ensemble. Seulement l'amour, ça peut faire beaucoup de dégâts. Seulement la sagesse aussi, vous devenez beaucoup trop dur Yeah. Donc, il y a les deux dans, un, dans, dans l'amour d'un, de quelqu'un qui a des enfants ou des petits-enfants après. Il y a les deux. C'est pour ça, des fois, vous dites quelque chose que les enfants, ils n'aiment pas du tout ou vous leur faites faire des choses qu'ils n'aiment pas du tout. Mais ce n'est pas fait parce que vous voulez les faire souffrir. Ils vont souffrir short term. OK, court terme. Mais vous faites ça pour leur bien et ça peut avoir beaucoup de force. Et ça peut même venir de frustration, tu vois. Même d'une certaine impatience parce qu'ils font toujours, toujours, toujours la même chose. Et puis, pendant 50 fois, vous essayez à expliquer, tu sais, avec toutes les raisons pourquoi il ne faut pas faire. Vous êtes des parents comme ça, que vous expliquez tout à vos enfants? Pourquoi il faut faire ça et puis pourquoi il ne faut pas faire ci? Vous faites ça?
J'ai été, oui.
Tu as essayé. Ah ben, non, je ne dis pas que c'est bien. Hein? Oui. Tu as essayé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, j'entends les parents et après les enfants quand ils sont un peu plus grands.
Ouais, c'est vieux, hein, tu vois. Mais au bout d'un moment, enfin, je me rappelle que parfois, je m'énervais parce qu'à force, ils répètent. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi.
Et après?
Ben après je crie.
Voilà. Et puis après?
Après je m'en veux parce que je me suis énervée.
Oui, tu t'es énervée, tu cries, mais les enfants après, qu'est-ce qui avait plus d'effet? De vouloir expliquer ou de crier?
Ah. Ben écoute, il y a les deux. Ça dépend de la situation en fait.
Ça dépend. Voilà. Ouais. Des fois, crier court. Mais après dire je t'aime beaucoup, ça va très bien, moi je trouve.
Ouais.
Bah, toujours leur affirmer que tu les aimes quand même. C'est ça, Dalai Lama, il dit toujours ça. Ouais. Dites à vos enfants que vous les aimez, mais ne les laissez pas faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Mais ils doivent être sûrs que vous le faites par amour. Et dites-leur quand ils sont réveillés, parce que moi je connais quelqu'un qui a été battu par sa mère quand elle était petite. Et puis elle a eu le premier garçon qu'elle a eu, il était impossible. Enfin, on dit impossible, mais vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Il était égoïste, il était brutal, il a jamais fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et puis, des fois, elle était tellement énervée par cette habitude d'être battue. Elle le battait, tu vois. Et puis, elle avait peur, elle était effrayée. Elle est venue vers moi et puis elle a pleuré. Et puis, elle me dit, je ne veux pas le battre parce que je sais ce que ça veut dire, mais je ne peux pas m'empêcher. Et le soir ou la nuit, je vais à côté de son lit et je lui dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je dis, écoute, dis-lui quand il est réveillé, pas quand il dort. C'est très, très difficile de voir la différence entre une compassion dure, mais avec beaucoup de sagesse et avec amour, ou le truc frustration, je veux que... Et puis c'est... Tu vois, c'est pas une fois comme ça, une fois comme ça. C'est vraiment, c'est comme de l'eau et du lait, hein, ça. It's mixed. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile de faire ça. Mais ce que je voulais dire, parce que quand les enfants, ils grandissent, ils ont appris à débattre. Mm-hmm. Donc, ils ont des arguments qui sont même plus forts que les vôtres. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que dans la réalité conventionnelle, il y a toujours deux côtés. Tu vois, il y a toujours les deux qui ont raison. Et puis, quand vous expliquez tout à vos enfants, ben, ils vont apprendre à vous contredire. Mais avec raison aussi. Pas avec gna, mais avec beaucoup d'intelligence. Donc, au moins, ils sont intelligents après, tu vois. Mais c'est bien aussi d'être des fois un peu dur. Et puis, moi, je trouve... Mais avec beaucoup de... Oui, avec beaucoup de compassion, de voir si les enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment, carrément perturbés. J'ai aussi le petit de ma meilleure copine aussi. Il est beau, il est charmant, il est gâté, Mais il a un caractère, mais alors vraiment impossible. Tu vois, maintenant il a, bon, maintenant il est père aussi, maintenant il est papa, donc il a changé. Mais quand il était petit, il avait beaucoup de talent pour jouer au foot. Mais il avait tellement de colère quand l'arbitre il a sifflé, il a craché sur l'arbitre.
Wow.
Parce qu'il ne se sentait pas être traité comme il voulait. Donc, il a pas progressé dans cette direction-là. Mais il aurait été bon, vraiment bien. Mais tu vois, il ne le voulait plus dans le club parce qu'il avait tellement de colère. Alors, une fois, il a chassé son grand frère, parce que le petit, c'est vraiment le macho. Et le grand frère, bon, c'est après il est devenu, enfin on a vu qu'il était homosexuel, donc tu vois le petit macho, il avait honte de son frère en plus. Mais quand il avait 6 ans, donc il chassait son frère et le frère il est tombé et puis il a dû aller à l'hôpital, donc il s'est blessé l'œil parce qu'il est tombé sur un truc. Et moi j'étais là, j'étais avec eux. Donc sa maman elle a dit, est-ce que tu peux garder le petit parce que on va aller à l'hôpital pour être avec l'autre. Oh, je me suis dit, oh non! Et puis je me suis dit, ok, celui-là, il est tellement difficile, je vais lui laisser tout, faire tout ce qu'il veut parce que je n'ai pas envie de me battre avec lui et tout ça. Alors les parents, ils sont partis assez tôt le matin. Moi, je ne mange pas le matin. Quelques-uns de vous, vous le savez. Donc, je ne prends pas de petit déjeuner parce que je n'ai pas faim. Lui non plus. Alors, tu vois, il se lève et dit, j'ai pas faim, je veux pas manger. J'ai dit, ah ben, c'est pas grave, parce que moi, je mange pas non plus. Donc, tu dois pas manger ce que je t'ai préparé. C'est bon, je comprends, t'as pas faim. J'ai dit, mais, il n'y a rien à manger avant midi. Mm. Il était tellement content, tu vois. Il a dit, ouais, super. J'ai dit, mais t'es sûr, hein, avant midi, il n'y a rien. Tu peux me dire ce que tu veux manger. Je vais faire à manger ce que tu m'as dit. Mais avant, il n'y a rien. Alors, à 11h, il vient, j'ai dit, oh, j'ai faim. Est-ce que je peux avoir un biscuit? J'ai dit non. Il me dit, mais j'ai vraiment faim. Et puis, tu vois, dans ce temps, j'habitais en Inde. Alors, il le savait. Donc, j'ai dit, écoute, hein, moi, j'habite en Inde. Je sais quelle allure les enfants ont quand ils ont faim. Toi? Non. Je pense pas que tu as faim. Et j'étais complètement neutre. Tu vois, je n'étais pas en colère. Je ne voulais pas lui donner une leçon, pas du tout. J'ai trouvé que c'était rigolo. Après, il est parti dans sa chambre. Il est revenu et puis il me demande, est-ce que je peux avoir une pomme?
Ouais.
Tu vois, c'est un gamin qui mangeait pas de légumes et pas de fruits. Mais comme moi, j'étais végétarienne et puis je ne mangeais pas ce qu'eux, ils mangeaient. Je mangeais mes vegetables, mes légumes. Alors, il a pris son intelligence. Alors, j'ai dit, ok. Parce que là, j'ai quand même honoré son intelligence. Et j'ai dit, ok, ça, tu peux avoir. Parce que ça lui fait manger une pomme, tu vois.
Mm-hmm.
Et peut-être qu'il va découvrir que peut-être les pommes, c'est bon. Je ne sais pas. Alors, il a mangé sa pomme. Alors, ça, c'était rigolo. Et puis, le soir aussi, on a fait tout ce qu'il voulait faire, vraiment. Et le soir, il était de mauvais poil. Et puis, je lui ai demandé d'aller chercher quelque chose que lui, je crois qu'il voulait des spaghettis, il n'y avait plus de fromage. Et je lui ai demandé de descendre pour aller acheter du fromage. Il me dit non. Et je me suis mise en colère. Tu vois, mon jeu, parce que je me suis dit, ah ben, zut alors. Toute la journée, j'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je te demande d'aller chercher, tu vois, c'est 5 minutes, d'aller acheter du fromage, qui est pour toi en plus. Pour mettre sur les spaghettis et tu dis non. Et puis je sentais, tu vois, le... Mais j'ai rien dit et je suis partie dans la cuisine. Et puis après, je me suis dit, mais oh, calme-toi. Et après, je suis repartie parce qu'il était en train de regarder la télé. Donc je suis repartie, je lui ai dit, Sam, est-ce que tu es heureux? Et puis il me regarde comme ça. Il avait 6 ans, hein. Puis, il me regarde comme ça. Il me dit, bon. J'ai dit, mais écoute, regarde, tu as des vacances, tu ne dois pas aller au jardin d'enfants ou à l'école, je ne sais plus. On a fait tout ce que tu voulais faire. Tu vas maintenant manger ce que tu voulais manger. Et tu n'as pas l'air d'être content. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire encore? Il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, écoute, Pourquoi tu n'essayes pas peut-être de tourner le truc et puis de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre pour changer? Et j'ai pas, tu vois, je l'ai laissé avec ça. J'ai pas dit maintenant, va chercher le fromage, je vais aller moi-même. Et puis le lendemain, avant midi, il est venu à la cuisine et puis il a demandé à sa maman, est-ce que je peux mettre la table? Et la mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu vois, donc je pense que vous pouvez faire ça avec vos enfants quand vous n'avez aucun intérêt, qu'après ils doivent être, comment on dit en français, qu'ils doivent le faire tout le temps, tu vois, faire quelque chose pour les autres et tout ça. Quand il n'y a pas de pression que tu dois faire ça parce que tu es mon enfant et mon enfant. Il fait pas ça. Je crois qu'il sentait que j'étais vraiment concernée par son bonheur, que j'étais vraiment intéressée que lui soit heureux. Et ce qui était intéressant aussi, que moi je l'ai toujours aimé parce que je vous ai dit, hein, il est charmant, il est beau, il est rigolo et tout ça, mais il est gâté, il était gâté, là. Mais je l'aimais. Mais lui, il avait peur de moi. Donc, il n'est jamais venu vers moi. C'est que son frère. Et puis, il était jaloux de son frère. Mais depuis ce jour-là, il s'est complètement ouvert aussi. Et j'aime bien, mais même maintenant, quand ils ont des problèmes, ils me demandent tes conseils. C'est assez sympa. Donc, la compassion peut aussi être, non, je te donne pas de biscuits. Et puis il était un peu, il essayait un peu, tu vois, avec nia 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 nia. Et puis normalement, les enfants, ils sont très intelligents parce qu'ils font ça jusqu'à ce que vous perdez votre patience. Et puis après, bon, il va pas vous, tu vas pas lui donner le biscuit comme ça. Voilà ton biscuit. Tu vas lui donner, voilà ton biscuit. Mais ils vont avoir ce qu'ils veulent. Et je pense que subconsciemment, ils le savent. C'est pour ça qu'ils font gnie, 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 parce que ça marche. Et ça ne suffit pas d'être complètement calme à l'extérieur et dedans, tu vois. Mais si vous êtes complètement relaxed, complètement ouvert, je vous dis, ils vont arrêter très vite. Et là, après, ils vont se servir de leur intelligence pour avoir des choses. Et puis moi, je crois que c'est mieux quand même. Parce que s'il développe cette forme d'intelligence, pas seulement je veux avoir ce que je veux, mais ça se peut que aussi il se forme une autre intelligence qui voit vraiment intelligemment ce qui les rend heureux et ce qui les fait souffrir. Au moins, il y a une chance, tu vois. Donc, la sagesse et la compassion, ça va vraiment ensemble. Oui.
Une question, justement, ce que tu viens de dire, comment saisir la différence, si c'est important de saisir la différence entre manipulation,
Oui.
donc je t'amène où je veux pour obtenir ce que je veux, et oui, comme tu dis, une intelligence différente, parce
Ah
que
ben
je
moi, je le manipulais aussi, hein. Moi, je savais que moi, j'ai employé mon intelligence aussi pour le manipuler, mais je l'ai manipulé pour son bien, pas pour le mien.
Oui.
Tu vois, je n'ai pas dit à la mère le lendemain, ah, tu vois, tu dois faire comme ça, parce que moi, j'ai réussi, il a fait ce que je voulais faire. Tu vois, ce n'était pas pour moi, c'était pour lui.
Oui, mais si c'est l'enfant qui te manipule pour obtenir, comment tu te mets dans ce truc, parce que
Ben,
ça
tu vois,
devient
ça,
de
le problème,
pouvoir
c'est, tu
ridicule.
vois, Sabrina, le problème, c'est ça le bouddhisme. Je ne sais pas, parce qu'il faut avoir la situation, il faut avoir dans quel état est-il. Parce que s'il est vraiment dans un état désastreux, alors, et puis il veut te manipuler, ben, tu lui donnes ce qu'il veut, pour qu'il se calme. Tu vois, s'il est dans un bon état, ben, tu dis non. Donc, tu vois, ça dépend beaucoup, beaucoup de la situation. Et donc, plus que toi, tu vas bien, plus que toi, tu peux supporter qu'il ne va pas bien et tu as la force de dire non pendant qu'il ne va pas bien, plus que tu es calme et tu es en contact avec ton, avec ta compassion et ta sagesse, et tu es ferme, ferme, mais flexible et ouvert. Tu vois, c'est ça, relaxed. Plus qu'il va t'écouter. Parce que quand on est frustré, quand on est en colère, l'énergie, elle est trop forte. On parle trop... C'est pas seulement qu'on parle trop fort, mais derrière les paroles, il y a la flèche. Parce que la colère, elle veut faire du mal. Et puis la colère, elle nous raconte plein de choses qui ne sont pas vraies. Elle nous raconte, mets-toi en colère, il fera ce que tu veux faire. Tu auras ce que tu veux avoir. La colère, quand vous êtes en colère, elle vous raconte ça, pas dans la tête, mais ce qui est derrière l'énergie. La colère, c'est une mascarade, la colère, aussi l'attachement d'ailleurs. Il nous raconte subconsciemment, ou c'est des instincts, beaucoup de choses qui ne sont pas du tout vraies. Peut-être c'est vrai sur short term, en termes courts, que oui, il aura peur, il fera ce que tu veux faire. Mais long terme, ça ne va jamais marcher. Tu vois? Mais donc, tu vois, même avant qu'on va dans la compassion, il faut vraiment étudier ce que c'est la colère. Et puis, il faut vraiment, avec les méditations de self-awareness, comment on dit en français? Oh, de nouveau, on est avec cette awareness. Non, de plus. Avec l'habilité de développer cet outil qu'on a, de développer cette capacité qu'on a d'être pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur en même temps. Ça, on peut faire. Vous pouvez écouter quelqu'un, mais ça, c'est un entraînement, hein. Et ça, surtout, c'est ce qu'on voulait faire jusqu'au bout de la vie. Je crois qu'on en parlait même. Hein? Quelqu'un se rappelle? Je crois qu'on en a parlé. C'est possible d'être en train d'écouter l'autre, mais en même temps de savoir ce qui se passe dedans chez vous. C'est possible, mais c'est un entraînement. Et donc, on s'entraîne en faisant des méditations sur la respiration ou surtout sur le corps. Parce que ces émotions, ça se manifeste dans le corps. Est-ce que, si vous voulez savoir, est-ce que je suis en colère ou est-ce que maintenant c'est vraiment de la compassion, mais une compassion forceful, et il suffit d'aller dedans, dans votre cœur. Mais voilà, dans le moment de colère, aller dedans, ben, ça c'est pour ça qu'on entraîne ça sur le coussin. C'est pour ça qu'on a un groupe où on essaye de s'entraîner. OK? Donc on va faire ça maintenant.
Merci.
Et ça, surtout, c'est Séverine qui fait ça avec vous. Donc, allez-y le lundi soir. Maintenant, vous ne devez même plus aller à la maison. Vous ne devez même pas quitter votre maison. Imaginez-vous d'aller tous les lundis soirs à Morges. Mais là, vous pouvez vraiment, pendant que ça dure, vous pouvez vraiment commencer à développer une routine que ça, c'est le truc le plus important le lundi soir, pour que je développe l'habitude. C'est ça, tous ces exercices, c'est qu'une habitude. Mais les habitudes, il faut les former. Tu vois? Et puis maintenant, c'est tellement pratique que tout ce qu'il faut, il faut faire trois pas jusqu'à l'ordi. Fermez la porte derrière vous, peut-être que vous êtes tranquille. Donc c'est formidable, tu vois. Et puis après qu'on a peut-être développé l'habitude tellement bien qu'on ne peut plus vivre sans le lundi soir chez Séverine, et puis on prend la voiture et puis on va aller chez elle pour faire la méditation. Parce que c'est pour ça que j'aime vraiment, si vous pouvez mettre la caméra, si la connexion n'est pas assez bonne et puis vous ne voulez vraiment pas la mettre, c'est bon. Mais moi je préfère que je vous voie, parce que sinon je parle au trou noir avec un nom dessus. Et puis ma sagesse, elle n'est pas assez grande pour sentir la résonance derrière le trou noir avec le nom dessus. Je ne suis pas assez forte encore dans ma clairvoyance. Ok, j'ai encore besoin pour raisonner, parce qu'on raisonne ensemble. C'est ça l'empathie. C'est, vous avez besoin de rien dire, aussi avec votre enfant. S'il y a deux sons qui sont, ou par exemple quand on fait une puja, et puis des fois il y a des gens qui sont leur voix, elle est exactement comme la mienne, mais vraiment exact, il y a une personne comme ça. Donc si on chante les deux, pour moi ça va totalement effortless, j'ai pas besoin de faire un effort, ça va tout seul parce qu'il y a la résonance. Quand elle est pas là, moi, je dois faire beaucoup d'efforts pour chanter. Donc, c'est ça, on essaie de mettre les résonances des cœurs ensemble. Et ça marche avec, en s'ouvrant et en écoutant l'autre, pas en lui donnant des conseils. Et là, il y a quelque chose qui se passe sur un niveau très, 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 très subtil. Et ça marche mieux que sur le niveau mot avec cœur fermé. Doit mot, cœur fermé, c'est que sagesse. Cœur complètement ouvert, mais sans sagesse, ça fait aussi... Après, vous commencez à souffrir vous-même. Si votre cœur, il est trop ouvert, tout à coup, la souffrance de l'autre, elle devient la vôtre. Parce que ça réveille nos miroirs neurones.
Neurones miroirs.
Hein? Comment?
Neurones miroirs.
Voilà, ça les réveille. Et est-ce que vous avez déjà senti, ou vous avez vu, si quelqu'un, peut-être Sandrine, elle peut confirmer parce qu'elle était dans cette situation. Parce que quand j'avais cassé le poignet, et puis bon, ça se voyait que j'avais cassé le poignet. J'ai jamais entendu autant d'histoires de gens qui avaient aussi cassé les os que pendant ce temps-là. Donc, est-ce que vous avez déjà senti quand il y a quelqu'un qui veut vous raconter vous demander comment vas-tu? La personne, elle dit, ouf, en ce moment, j'ai ça. Est-ce que vous avez senti chez vous pas le besoin, mais la tentation d'amener le truc, de raconter mon histoire.
On a tous ça.
Donc, si vous êtes si quelqu'un vous demande comment vas-tu, vous lui racontez j'ai ça et ça et ça, et puis après il commence à raconter son histoire et vous vous énervez, ne vous énervez pas, vous pensez ouf, moi je fais exactement la même chose, et maintenant vous allez voir comment ça se sent quand on est de l'autre côté. Tu sais, et puis en plus, on raconte l'histoire où on souffrait plus que celui qu'on a demandé comment vas-tu. Pour en plus lui dire, écoute, ta souffrance, c'est rien. Regarde la mienne. C'est bien que vous pouvez rigoler. J'espère que vous allez pouvoir rigoler quand ça arrive à vous. La prochaine. Quelqu'un vous demande comment vas-tu. Vous êtes dans une catastrophe pas possible. Et l'autre personne lui raconte sa catastrophe beaucoup plus grande pour vous faire sentir mieux.
Mais il y a des...
Sandrine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça arrive?
Ah oui, ça m'a beaucoup... Beaucoup arrivé, oui, tout à fait. Hein. Tout le monde voulait, tout le monde avait quelqu'un dans la famille qui était malade. Donc, en fait, tout le monde voulait me faire sentir mieux, mais tout le monde me racontait que tel et tel un copain ou un cousin, la même chose, et ainsi de suite.
Tout à fait. Ouais, la même chose ou pire, tu vois. Et puis après, ils croient que voilà, ça va nous sentir. Moi, je dis, après, on devrait dire à l'autre, ah oui, je m'excuse que je t'ai raconté que je ne vais pas bien parce que c'est vrai, il y a pire. Ouais, on peut peut-être faire ça. Donc, si ça ne vous énerve pas, il ne faut pas le dire cyniquement, tu vois. Mais si ça vous énerve pas, parce qu'au fait, les personnes, ils ont raison. Il y a pire. Et le moment où on va pas bien et on peut penser, oh, mais il y a pire, nous, on va mieux. Mais il faudrait qu'on apprenne à le dire nous-mêmes, à nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre. Parce que de l'extérieur, on peut pas l'accepter. C'est très difficile de l'accepter à l'extérieur, sauf si vous êtes un pratiquant vraiment évolué, quoi. Et vous dites, ah oui, zut, j'avais complètement oublié qu'il y a pire. Merci beaucoup pour me dire. Oui. Mais on pourrait peut-être essayer une fois, si quelqu'un vient. Mais avec quelqu'un qui pratique, hein. Faites pas ça avec vos... avec les autres. Et puis pas pour maintenant, de nouveau, je dois me servir d'un mot qui est grossier, pas pour se foutre de leur gueule, ok? Not to make fun of them. En anglais, je peux dire gentiment. En français, je sais pas. Comment on dit en français correctement? Se foutre de la gueule de quelqu'un.
Se moquer?
Se moquer, oui. Voilà, pas pour se moquer. Merci, Jacques. Pas pour se moquer. Pas pour montrer que vous êtes supérieur. Ça aussi, ça, c'est... Ça crée du karma. Beaucoup de karma négatif, ce sorte de cynicisme. Et puis, vous vous sentez bien après. Tu vois? Parce que ça fait mal aussi. Si vous le dites si vous le dites à quelqu'un que vous savez, il peut supporter, et puis il trouve ça rigolo aussi, ça, oui, là, on peut... Si on peut se foutre de sa propre gueule, là on peut. Et c'est ça qu'on doit apprendre, de se moquer de nous-mêmes. Parce que d'un côté, on se croit vraiment intelligent. D'un côté. De l'autre côté, on a l'aspect on se sent nul. Et puis il y a ces deux aspects qui sont toujours en conflit. Donc on n'est ni l'un ni l'autre. On est des fois intelligent, des fois on est nul, et puis, comme tout le monde, quoi. Et puis on se croit unique. Mais tout le monde est comme ça. Vous vous rappelez Namkha Rinpoche qui a donné la conférence au stade de Malais,
oui.
Quand il avait sa santé. Qu'est-ce qu'il nous a dit?
Il parlait de la mort. C'était sur la mort. Hein? Il parlait de la mort, c'était tout sur la mort.
Namkha Rinpoche, non. Sokya Rinpoche, il a
envie
de la mort et puis il a dit, non, j'ai pas envie parce que de toute façon, on va tous réussir. Moi, j'ai trouvé super. Il ne faut pas avoir peur parce que vous allez réussir, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde a réussi. Même maintenant, lui aussi, il a réussi, il est parti. Donc, non, Namkha Rinpoche, le plus jeune, pas
oui, ça. C'est vrai. Il avait dit que tous les Occidentaux étaient mauvais. Ça avait...
Il n'a pas dit mauvais.
Non, il n'avait pas dit mauvais.
Il n'a pas dit mauvais.
Qu'est-ce
qu'il a dit?
Méchant.
Non.
Pas méchant.
Non.
Mais il y avait eu une révolte dans le public.
Oui, complètement.
Voilà.
Moi, j'ai adoré son... Oui. Lui, il m'a montré le miroir. Je me suis dit, zut, je n'ai jamais remarqué. Il a complètement raison. Mais il n'a pas dit mauvais, il n'a pas dit méchant. Il a dit...
Stupide, peut-être.
Non.
Alors, je ne sais pas.
Arrogant.
Ah, oui. Ça c'est vrai. Hein?
Oui, il a dit c'est très difficile de vous enseigner quelque chose parce que vous avez cette arrogance et qui chaque fois qu'on vous dit quelque chose que vous savez pas faire, vous êtes complètement détruit et puis vous foutez le camp.
Oui.
Vous dites que je suis méchant. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et puis en plus, il a dit si vous aimez pas ce que je dis, vous pouvez partir, la moitié est partie. Oui. Et moi, parce qu'il m'a vraiment montré, je me suis dit, zut, c'est vrai, il a raison, parce que par cette arrogance, je deviens très faible et je ne supporte plus, c'est pas une confiance en soi, hein, c'est vraiment l'arrogance de se créer une image de soi-même qui n'est pas vraie. Et le lama, il vient avec une aiguille, le ballon, ça fait pouf, tu vois, et puis je me suis dit, ouais, il a vraiment raison. Des fois, j'ai une opinion qui est beaucoup trop bonne de moi-même. Et en plus, je suis fière, tu vois, je suis fière de que j'ai ça, mais c'est qu'une petite partie de moi, puis j'oublie le reste. Et puis quand je vois l'autre reste, moi, je tombe dans le self-criticism, je me critique moi-même. Et puis voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup appris dans ce temps. Mais tu vois, moi, j'étais déjà nonne, ça fait longtemps que je pratique. Et puis, je sais, j'assume qu'à la base, je suis OK. Et dessus, sur cette base qui est vraiment merveilleuse et magnifique, il y a de la saleté. Et cette saleté, il faut l'enlever. Et puis, il me faut quelqu'un qui me montre ces saletés. Il me faut quelqu'un qui m'enseigne des méthodes pour me libérer de cette saleté. Donc, j'avais déjà, surtout, être avec les Tibétains pendant longtemps, tu vois. J'avais l'habitude que les Tibétains, les maîtres tibétains, ils ne te disent pas ce que tu fais bien. Ils te disent seulement ce que tu ne fais pas bien. Ça, c'est leur façon de faire, parce qu'ils ne vont pas perdre du temps de te faire des compliments si tu as déjà surmonté un truc, quoi. Ça serait comme un médecin, imaginez-vous. Vous allez chez un médecin, vous devez payer, je ne sais pas, 200 francs l'heure. Le médecin, il vous regarde et tout ça, et il commence à vous dire tout ce qui est sain dans votre corps. Et vous devez payer, hein. Il vous dit pas, votre estomac, il est super, vous devez avoir une congestion de tonnerre, je ne sais pas. Au début, peut-être qu'on est content, tu vois. Mais on est venu parce qu'on est malade. Et puis l'heure, ça, tu sais, ça passe. Il ne vous a pas encore dit ce qui ne va pas bien. Il ne vous a pas encore dit où est le problème. Il vous dit seulement ce qui va bien. Qu'est-ce que vous allez dire après, à la fin? Vous allez, ah merci docteur, vous m'avez rendu vraiment heureux parce que vous m'avez dit ce qui va bien. Vous allez dire ça et payer les 200 balles. Aucune idée ce qui va pas et ce que vous devez faire. Non, hein?
Non, pas du tout.
Mais quand on va voir un maître, avec quoi?
On a peut-être réalisé qu'on était malade imaginaire.
Hein?
On aura peut-être réalisé que nous étions des malades imaginaires.
Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et ça va
pas. Allez chez le médecin parce qu'il y a quelque chose. Il ne vous a pas dit « j'ai rien trouvé ».
Ah oui, c'est vrai.
Il a juste dit « c'est pas bien ». Mais quand on va voir le médecin, qu'est-ce qu'on lui raconte? J'ai fini cette retraite, j'ai étudié ce texte, et c'est rare qu'on dit, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, moi j'explose. J'ai beaucoup d'attachement, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Tu vois, on crée une image de nous-mêmes parce qu'on croit que le maître, c'est un être ordinaire où il faut d'abord montrer qu'on est une bonne personne pour être aimé. Il faut prouver que vous êtes un bon étudiant. Un bon étudiant, c'est quelqu'un qui connaît les problèmes, ses problèmes. Un bon étudiant, il sait encore où il est nul dans la pratique. Et c'est de ça qu'on parle avec son maître. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile de confesser au maître. C'est pas facile de dire au maître, par exemple, « Ouh là là, la semaine passée, moi j'ai pensé à vous, j'avais des pensées vraiment mauvaises. » Mais c'est important de pouvoir le faire, c'est important de, justement d'avoir cette honnêteté au moins envers nous-mêmes. Et si vous voulez que le maître il vous aide, ben, il faut dire. Parce que de toute façon, tu vois, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous faire progresser sur le chemin. Donc, maintenant, les maîtres, Geshe Serap, Geshe Tashi, et tout cela, ça fait longtemps qu'ils sont ici en Occident. Donc, ils ont reconnu que d'abord à nous, il faut nous dire ce qui va bien. Avant de dire ce qui ne va pas bien. Et souvent, les psychologues occidentaux, ils doivent faire la même chose. Si tu dis à un patient dès le début ce qui ne va pas bien, ben, tu vas le détruire. Parce que l'ego, il est tellement fort. Et l'esprit va tellement mal. Tu vois? Donc, pour le médecin, ça pourrait être la même chose. Celui-là qui te fait payer 200 francs par heure et qui ne te dit pas où est ta maladie, ça se peut qu'il a reconnu que d'abord, il doit te dire ce qui va bien. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont bien pour que tu aies le courage de commencer avec la thérapie. Parce que tu as reconnu que tu as un petit problème, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et tu vois, Sabrina, c'est ça, c'est pour ça que le bouddhisme il est tellement compliqué et tellement, tellement difficile. Parce qu'il y a toujours un after story. Il n'y a que continuation, tu vois. Et puis, si on a un maître qui voit vraiment très, très loin, il peut peut-être faire quelque chose qui, ça semble que ça vous détruit et puis que la pratique. Mais dans le long terme, ça pourrait être bénéfique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand il y a abus, il faut aller parler à quelqu'un. Surtout au maître directement, si vous avez le courage. Quand vous vous sentez abusé, quand vous ne vous sentez pas traité bien, des choses comme ça. Tu vois. Ça, ce n'est pas compassion. Il y a, en Israël, on fait les week-ends, on fait les séminaires comme ça. On fait dans un lieu qui s'appelle Nesamim. C'est un hôtel ou un peu kibbutz qui a été bâti par les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était fait pour reconciliation. Donc, il y a toutes les religions aussi qui font leur truc. Il y a une église, il y a une synagogue. Et puis, l'église, elle est assez neutre pour qu'on puisse aussi faire des autres choses dedans. Aussi, même la synagogue. Ils nous permettent, dans la synagogue, de mettre les livres et le truc qui est au milieu dans les synagogues, de le mettre à côté et de suspendre les tankas.
Ouf.
Alors ça, c'est quelque chose. Hein. Mm-hmm. Mais moi, j'ai dit, OK, ils nous le permettent, mais quand il y a des juifs religieux qui sont là, parce que des fois, ils sont là le week-end, on ne le fait pas. Parce qu'eux, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se sentir complètement pas respectés. Parce que, tu sais, pour ne pas faire une image, ils ont cette loi de ne pas faire l'image de Dieu. OK. Donc, il y a un grand panneau où ça dit, un peu dans le sens, the innocence of the innocent. En allemand, c'est beaucoup mieux parce que c'est une juive allemande qui était dans le Holocauste qui a dit ça. Peut-être je le trouve. Peut-être, Christine, toi, tu es bien pour trouver des trucs sur... ces citations sur le Himmel. Mais je ne me rappelle plus de son nom et puis je ne sais pas exactement comment c'était. Mais elle parle « die Schuld der Unschuldigen ». Donc, « die Schuld », c'est quoi la « Schuld » en français? Caro ?« Schuld » La culpabilité. La culpabilité de l'innocent. De celui qui se croit innocent, celui qui voit que quelque chose est en train de se passer qui n'est pas juste, mais il est là avec son raincoat, avec son imperméable, il s'allume une cigarette, bon ça c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, les gens ils fumaient encore, il allume la cigarette et puis il dit « je ne peux rien faire ». Ça c'est la culpabilité de celui qui se croit innocent. Quand on pourrait faire quelque chose, quand on pourrait dire quelque chose. Voilà. C'est quelqu'un qui était dans le Holocauste qui a fait cette citation un peu. Je vais la trouver. J'essaie de la mettre ensemble. Je vais la trouver. Donc, des fois, tu vois, on se sent tellement innocent ce qui se passe dans le monde parce qu'on dit « je ne peux rien faire ». Mais vous pouvez toujours faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous croyez que vous ne pouvez rien faire? Ça, c'est une question à vous.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand on
mettre à la place de l'autre et voir ce que je pourrais faire dans son intérêt.
Mm-hmm, par exemple.
Même je ne vois pas, peut-être je peux mettre à sa place et voir son, se mettre sous son point de vue et voir si je peux, je suis capable de faire quelque chose pour lui.
Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire?
Bah, revenir peut-être au corps et voir ce qui se passe à l'intérieur par rapport à la situation. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vient toucher?
Parce que quand on a, tu vois, quand on a cette forme d'innocence, quand tu dis revenir au corps, on sait qu'on n'est pas innocent. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on n'est pas innocent? On se sent coupable, parce que la culpabilité, c'est vraiment une émotion qui est très, très, très dangereuse, parce qu'elle vous bloque complètement. C'est puis, pas, comme c'est une sensation qui est pas du tout qui est pas du tout confortable, on dit oh mais regarde, je souffre aussi, je suis pas heureuse, et puis on croit que c'est assez. Culpabilité, c'est vraiment nul. Ce qu'il faut, c'est le regret, et puis compassion, sagesse, pour voir qu'est-ce que je peux vraiment faire. Et puis quand vous voyez que vous pouvez vraiment rien faire, même pas dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Là, vous pouvez ouvrir votre cœur, comme dit Sandrine. Vous ouvrez votre cœur, vous regardez le samsara et vous dites « Samsara really sucks ». Ce monde tel qu'il est, c'est vraiment de la merde. Il y a tellement d'injustices, il y a tout ça. Et puis, vous commencez à générer la compassion. May this suffering end on this planet, dans ce monde. Et puis après, vous vous faites une promesse. Si vous n'avez pas compris, Séverine, elle peut. Tu vois, on est dans l'épuise de nouveau là. May I never contribute to this suffering. Séverine?
Je pensais, je n'ai jamais contribué à cette souffrance.
Et puis après, on voit, mais même si je ne veux pas, je contribue à cette souffrance. Après, qu'est-ce qu'on fait? On se sent coupable. Oh oui,
c'est ça.
On reste dans son coin, se sentir coupable. Et puis tout le monde qui vient, qui est heureux, quand vous vous sentez coupable, vous êtes jaloux. Et puis vous leur détruisez leur bonheur. Ça aussi, la culpabilité, elle ne peut pas supporter quand quelqu'un est heureux. Et puis, elle fait tout pour détruire le bonheur de l'autre. Hein? Ça aussi, ça, vous remarquez quand vous vous sentez coupable. C'est affreux.
Pour éviter ça, je... Pardon.
Oui?
Pour éviter ça, je me dis que je suis limitée, que je suis dans plein dans le samsara et que je ne vois pas les choses qui changent, le changement d'instant en instant. Et je me dis que c'est que par... si j'atteins l'éveil... si j'atteins l'état de Bouddha, que je pourrais faire du bien aux autres. Mais comme ça, de moi-même, là, maintenant, il faut travailler pour arriver à l'état de Bouddha.
Voilà, exactement. On peut toujours générer la bodhicitta, dans chaque instant. Même que, tu vois, comme je vous ai dit la dernière fois, la bodhicitta, c'est une attitude, c'est pas vraiment pour nous, c'est pas encore action. Je veux devenir un Bouddha pour que je puisse après faire quelque chose, comme le Dalai Lama qui peut inspirer les gens. Tu vois, qui juste par être là, il y a des gens qui complètement changent leur cours de où ils vont, comme beaucoup d'autres bodhisattvas. Est-ce que vous connaissez l'histoire de... Je vous ai peut-être déjà raconté, hein, l'histoire de Vini Leonardo. Je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est Leonardo, ouais. Donc lui, c'est un Italien qui est, il a été né à Berkeley somewhere, non Berkeley, c'est les Yuppies qui sont à Berkeley, mais autour de San Francisco, mais dans une famille italienne mafia. Ok. Donc, sorry Sabrina, je sais que pas tous les Italiens c'est des mafias, ok? Donc, tu vois, lui, il voulait appartenir, il rentrait avec tes vues mafia. Donc, tu appartiens au groupe si tu deviens criminel et si tu as été en prison. Donc, déjà, en étant très jeune, ils sont allés dans les rues, ils avaient des gangs et puis ils se sont battus avec les baseball clubs. Donc, ils étaient dans les rues et puis un jour, ils voient un sans-abri. On dit comme ça ou sans...
Oui, sans-abri.
Un sans-abri qui était là comme ça. Et puis, ils sont allés vers lui pour lui taper dessus. Et ce sans-abri, il le regarde en plein dans les yeux et puis dit « Please help me. S'il te plaît, aide-moi. » Bon, maintenant, tu vois, je ne peux jamais raconter l'histoire en un trait. Et il n'a pas pu le battre. Il n'a pas pu le battre. Donc, il a dit à ses copains, parce que lui, c'était le chef du gang. Donc, il a dit à ses copains, écoute, bon, il est vieux, puis il est faible, puis écoute, c'est pas vraiment un challenge, tu vois, c'est pas vraiment challenge. C'est pas vraiment un défi. On va chercher quelqu'un d'autre. Mais il était tellement perturbé, il était tellement en colère envers ce sans-abri parce qu'il lui a montré son côté compassion, tu vois. Donc, quand tous les autres ils étaient à la maison, il est retourné chez lui et il l'a engueulé. Puis il a dit, mais est-ce que tu es complètement fou? On voulait te taper dessus, pourquoi tu me demandes de t'aider? Et puis, cette sans-abri, il a dit, because I never saw so much compassion in somebody's eyes. Parce que j'ai jamais vu autant de compassion chez quelqu'un dans les yeux comme chez toi. Donc, cette sans-abri, il a dû avoir un esprit très pur pour voir à travers la violence le potentiel que ce jeune homme, il a. Donc, il a complètement abandonné sa carrière mafia. Et puis là, il travaille avec les street kids. Tu vois, il est allé étudier le bouddhisme, le mindfulness, psychologie et tout ça. Et puis, vous le trouvez sur YouTube. Il est plein de tattoos partout. Il a des piercings. Et puis, justement, il essaye de faire voir à tout le monde, pas seulement aux street kids, aussi à nous, qu'on a ce potentiel. Ouais. Donc, tu vois, des fois, c'est pour ça qu'il faut devenir Bouddha, parce que ce sans-abri qui était assis là, je suis sûre que c'est un bodhisattva. Donc, ce bodhisattva, il a donné son corps pour être peut-être tapé dessus pour qu'il puisse faire contact avec ce Vini Leonardo. Et comme Sandrine a dit, on peut toujours générer la bodhicitta. Et puis quand on génère la bodhicitta, on est en contact avec notre bon côté, pas avec notre côté négatif. Tu vois? Et puis chaque fois qu'on va dans le monde, dehors, en étant en contact avec notre bon côté, on est ouvert, on se sent bien, ou au moins... Si on ne se sent pas bien, on remarque qu'on ne se sent pas bien et puis on est prudent et puis on ne va par exemple pas dehors ou on ne va pas voir une personne qu'on n'aime pas si ce n'est pas absolument nécessaire. De prendre bien soin de vous aussi et en même temps prendre soin des autres que vous n'allez déjà pas bien. Vous êtes peut-être panique, dépression, maladie, je ne sais pas quoi. Et puis, il y a quelqu'un que vous n'aimez pas trop et vous voulez être le bon bodhisattva qui prend soin de tout le monde. Et vous n'aimez pas la personne. N'y allez pas. Envoyez quelqu'un d'autre. Pas pour votre bien à vous, mais avec concernation pour l'autre. Parce que si vous allez là, déjà, vous allez ressentir qu'il n'est pas assez, grateful.
Il est reconnaissant.
pas assez reconnaissant que je fais ça pour lui, qu'il dit quelque chose que j'aime pas et tout, et puis vous explosez en colère et vous allez le blesser avec vos paroles. Ou des fois même avec votre attitude. Ne vous forcez pas à aller voir les gens que vous n'aimez pas, si ce n'est pas nécessaire. Si c'est nécessaire, c'est autre chose. Mais travaillez sur votre fermeture ici dedans, avant que vous allez là. Et ça, on peut s'entraîner. Donc, quand je vous dis, n'allez pas voir les gens que vous n'aimez pas. Ok, de nouveau, ce n'est pas juste ce que je dis. Vous entraînez-vous à aller voir les gens que vous n'aimez pas un petit peu seulement. Et allez-y comme entraînement. Parce que déjà, vous allez avec un esprit qui est assez neutre. Hein? Et puis, un esprit qui est excité, qui est content. Ah, je vais pour m'entraîner pour voir si je suis en face de cette personne, si j'arrive à ouvrir mon cœur.
Tu sais, Rita, quand j'essaye de faire le meilleur possible, puis des fois, ben non, le résultat n'est pas bon. Alors, ça m'est arrivé récemment, et je me suis dit, tiens, là, bon, alors j'ai fait de mon mieux, j'ai reçu une réaction de la personne qui était négative envers moi. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec cette réaction-là, négative? Et je me suis dit, hop, ça, c'est super. C'est la maturation d'un karma négatif. Okay. Donc, hop là, il est parti, c'est super. Comme ça, j'ai pu entraîner ce karma négatif. Et le but, c'est de ne pas recréer après de l'aversion envers la personne par rapport à la réaction, ne pas faire une réaction dans le même sens, donc dans l'aversion. Donc, rester dans la compassion, dans le cœur ouvert et me dire, ah tiens, ça le karma, il est fini, j'ai épuré, c'est super. Comme ça, j'ai pu le traîner dans le futur. Donc, je me dis ça aussi quand c'est difficile. Je me dis, hop, là, ça, ce karma, il est fini. Passons à autre chose.
Ouais. C'est exactement comme Sandrine dit, mais moi, j'avais ajouté quelque chose à ça, Sandrine. J'ai dit, n'y allez pas quand vous n'allez pas bien.
Ah ouais.
Parce que quand vous n'allez pas bien, vous allez être blessé, vous allez créer toute une histoire, cette personne, elle est mauvaise, ça ne vaut pas le coup, je vais la laisser, qu'elle m'emmerde, tu vois, et puis on va trouver. Et puis la colère, elle vous raconte ces histoires et vous allez les croire. Tu vois, c'est pour ça, quand vous n'allez pas bien, prenez soin de vous, que vous ouvrez. Et vous préparez pour la situation déjà. Tu vois, si vous êtes préparé que la personne, elle va pas réagir d'une bonne façon. Ça y est, elle réagit pas d'une bonne façon, vous êtes préparé. Mais nous, on va avec l'attente, parce que moi, le bodhisattva va faire maintenant quelque chose, un service pour cette personne désagréable. Donc, on se sent beaucoup trop haut, hein. Et puis en plus, on a cette attente qu'elle doit être reconnaissante, qu'elle doit voir ma gentillesse et tout ça, tu vois. Oh, combien de fois j'ai senti mon cœur se fermer quand les gens, ils m'ont pas dit ou ils n'ont pas remarqué à quel point ils sont gentils, que moi je suis gentille. Combien de fois j'ai eu ce moment, tu vois, parce que par exemple. J'ai trouvé quelqu'un qui n'a pas d'argent. Je lui ai trouvé vraiment une chambre où elle peut rester sans payer rien. Et puis, je me suis vraiment pliée en deux pour qu'elle puisse aller là. Et puis, tout ça, j'ai dit que si jamais que c'est difficile, que je vais donner de l'argent à la personne qui a donné la chambre pour que ça ne devienne pas trop difficile et tout ça. Et puis, bon, consciemment, j'entendais pas que l'autre personne me dit « Waouh, merci beaucoup, t'es vraiment super » et tout ça. Donc, cette personne, elle est allée là. C'était pas pour longtemps, c'était juste pour 2 semaines, mais quand même. Elle revient, quand elle me voit, elle me dit « Waouh, c'est vraiment super cette chambre. Waouh, je dois avoir du bon karma alors. » Elle a tout mis sur son bon karma. Et moi, qui était la condition pour son bon karma de mûrir, que sans moi, il n'y a pas de bon karma qui mûrit, mais rien. Ah, je dois vraiment avoir du bon karma pour avoir une chambre comme ça, en plus gratuit. Pram, chez moi, tu vois. Et c'est là, c'est le moment quand on va bien. Mais ça, il y a longtemps de ça. Là, je te dis, ce cœur fermé, je l'ai apporté avec moi pendant longtemps. Hein. Tu vois, donc c'est pour ça. C'est pour ça, c'est difficile ce chemin-là. C'est pas facile. Et puis, Sabrina, c'est ça, tu vois, c'est pas vraiment un handbook, c'est pas vraiment un manuel, non. Le bouddhisme, où tu peux dire, OK, si on fait ça, je fais ça, si on fait ça, je fais ça, si on fait ça, je fais ça. Puis, on n'a toujours pas fait la méditation. Donc, on essaye de faire un peu quelque chose. On essaye d'ouvrir un peu notre cœur. Mm-hmm. Et surtout, aussi, c'est pour ça que j'ai mentionné Geshe Shera, parce qu'il va parler de équanimité, parce que c'est le premier pas, tu vois, de vraiment voir à quel point on n'est pas équanime. À quel point, instinctivement, et puis puisque c'est instinct, on croit que c'est juste. Que celui-là, il est bon, je l'aime. Celui-là, il est mauvais, je ne l'aime pas. Et l'autre, ben, il ne m'intéresse pas. Et tant qu'on a ces réactions instinctives, on ne peut pas vraiment parler de bodhicitta. Parce que bodhicitta, mais all beings have happiness. C'est pour ça, c'est vraiment bien de pratiquer ces quatre incommensurables aussi. Pour avant la bodhicitta, ça vient avant la bodhicitta, pour sentir. Tiens, on va essayer ça comme réflexion. Pour sentir comment ça se sent, l'amour. Parce qu'il n'est pas là. Hein? C'est une sensation. Un sentiment, sensation. You feel it. Yeah, it's a feeling. Comment ça se sent le, et puis, quelle énergie? Peut-être feeling is not good enough. Parce que l'énergie, ça change. Souvent, les gens ils disent, ouais, mais l'amour, la compassion, c'est la même chose. Non, l'énergie, elle est complètement différente. La compassion, elle a beaucoup plus d'énergie. Tu vois, l'amour, c'est quelque chose d'ouvert, heureux et tout ça. Mais la compassion, ça fait mal. Et ce mal, on veut faire quelque chose. Mais si ce n'est pas comparé justement à la sagesse, si ce n'est pas combiné à la sagesse, ça devient pas bien, quoi. Ça devient votre souffrance à vous, de nouveau. Il faut se dire de temps en temps, OK, c'est l'autre personne qui souffre, ce n'est pas toi. OK, on essaye peut-être un peu avec les quatre incommensurables. Oh là là, en français. Je vais essayer de faire des autres phrases, peut-être. OK. Donc, si vous voulez vite vous lever, parce que ça fait un moment qu'on est assis, hein, quand même, pour vous détendre un peu, vous pouvez. Si vous avez une tasse à côté de vous, vous pouvez boire quelque chose. Si vous avez besoin de pipi, vous pouvez aller faire pipi. Je vais vous attendre que vous reveniez.
Losange ?
Oui.
Oui, je profite pour te dire que je peux faire avec vous à midi, si tu peux m'envoyer le lien.
Je t'envoie le lien, OK.
Mon mari, il fera à manger après.
Ah, ouais, alors, c'est gentil.
Ouais.
Oui.
Voilà, merci.
Tu vois, parce qu'il y a quelques-uns qui... Mais ça va être en allemand, hein. Donc, il y a quelques...
Oui, oui, pas de souci.
Oui, oui, pour toi, il n'y a pas de souci, mais ça, c'est pour les autres. Ah, parce pardon. Qu'on, justement, on va faire, à midi, on va faire les noms du Bouddha de la médecine. Pour aider un peu à ce chien pour aller trouver une bonne renaissance ou bien une renaissance précieuse humaine ou un pure land. Voilà, par exemple, ça on peut faire, tu vois. Maintenant aussi dans cette situation, dire coronavirus, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on a reçu des mantras de Saint Dalai Lama et on a reçu des pratiques de l'Amazopa Rinpoche. Ça on peut faire. Et puis comme ça, on ne se sent pas trop inutile. Et puis si on n'a pas le temps de le faire parce que vous travaillez ou vous avez des autres pratiques, au moins on se réjouit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire au lieu de se sentir coupable qu'on ne fait pas. De nouveau, je vous dis, la culpabilité, c'est nul. C'est vraiment nul. C'est complètement donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ok, donc vous asseyez avec un dos droit, si possible, avec beaucoup de self-confidence, que au fond, notre nature, c'est compassion, amour, sagesse. Tout est déjà là. Je vais vous fermer les micros. Hein. Ah non, je ne peux pas, c'est Séverine qui doit faire.
Alors, attends, je fais.
J'ai abandonné le contrôle sur vous. Ok, je crois que c'est bon. Ok. Donc, toujours, quand on commence comme ça, vous vous connectez avec votre corps. Et vous essayez de le détendre. Et moi, je vous dis, ma méthode la plus rapide, j'essaye, ou je visualise, j'imagine, de respirer avec le corps entier. Si vous avez une autre méthode, vous pouvez l'employer maintenant. Et soyez surtout sûr que vous descendez de la tête jusqu'au cœur. C'est là qu'on ressent ces choses. Ok, donc pour le premier, c'est normalement, des fois c'est amour, des fois on commence avec l'équanimité, mais moi je trouve l'équanimité, même que c'est la chose la plus importante, une fois que le cœur il est ouvert, c'est plus facile à pratiquer, moi je trouve, des fois. Donc l'amour, ressentir l'amour, pas dans votre tête, mais dans votre corps, et tout ce qu'il faut faire, c'est de penser à quelqu'un qui va bien, que vous aimez bien. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, vous pensez à une amie ou à un ami, vous demandez à cet ami « Comment vas-tu ?» Et cet ami vous dit « Ah, aujourd'hui, je vais vraiment bien. » Imaginez-vous cette situation et regardez ce qui se passe dans votre cœur. Juste regardez, pas manipuler. S'il n'y a rien qui se passe, pas grave. Et si c'est vraiment l'amour, vous allez voir que ce n'est pas important que vous n'êtes pas la cause de son bonheur. Ça suffit que cette personne, elle va bien. Vous n'allez pas demander « Ah, pourquoi tu es content ? Moi, je n'ai rien fait. Pourquoi tu es heureux ?» Ça, c'est l'attachement qui a peur. Quelqu'un d'autre qui le rend plus heureux que moi. L'amour pur, elle est complètement ouverte. Elle permet à l'autre de trouver des autres causes pour le bonheur que moi. Et l'amour, au fait, quand le cœur il est complètement ouvert comme ça, quand il y a beaucoup d'espace, c'est un outil vraiment powerful, vraiment puissant de vraiment transformer les conflits et les situations. Si vous êtes concerné pour le bonheur de l'autre. Mais un bonheur long terme, pas juste lui donner ce qu'il veut quand vous voyez que c'est dangereux ou que c'est pas bien. Et ce souhait qu'on a, puisse-toi être heureux pour le reste de ta vie, ça vient tout seul, c'est très naturel. On lui souhaite d'être content, d'être heureux. Et il y a une certaine énergie là-dedans. C'est pour ça que je voudrais que vous ressentiez cette énergie. May you always be happy. Puisse-toi être toujours heureux. Et avoir les causes pour le bonheur. Après, on essaie de sentir la compassion. Donc, de nouveau, on prend la même personne. Et vous demandez, comment vas-tu? Et puis, la personne, elle dit, aujourd'hui, je ne vais pas très bien. Regardez ce qui se passe dans votre cœur, ce qui change. Et de nouveau, essayez de ressentir l'énergie. La résonance, là, l'énergie qu'il y a dans la compassion. Avec l'amour, quand l'autre personne, elle vous a dit oh, « Aujourd'hui, je vais vraiment bien. » Vous n'avez pas demandé « Pourquoi tu vas bien ?» Là, quand la personne, elle dit oh, « Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne vais pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même énergie, connexion? On est connecté avec cette personne. L'énergie de la compassion, elle veut faire quelque chose. Elle demande. Mais on demande toujours les causes. Donc, les causes, on ne peut rien faire. Donc, si c'est vraiment la compassion, on demanderait, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Pas juste les causes, parce qu'avec les causes, après, on lui donne des conseils que nous, on n'emploie pas non plus pour nous-mêmes. Et avec la sagesse, on regarde qu'est-ce que je peux faire pour cette personne. Parce qu'il y a une certaine douleur dans notre cœur. Jogyam Trimpo Rinpoche, il avait dit, la compassion, oh, it's the sore spot in your heart. You touch it, it hurts. C'est le point sensible, sore, un peu blessé, quand il n'y a plus de peau dessus. Irrité, c'est le point irritable ou irrité dans ton cœur. Tu le touches, ça fait mal. Et le souhait de pouvoir faire quelque chose, ça devrait toujours être là. Mais après, il y a la sagesse qui vient. Est-ce que c'est vraiment bien de faire quelque chose maintenant? Ou est-ce que ça suffit peut-être juste d'être présent pour voir que ça ne devient pas dangereux? La sagesse, elle analyse, elle investigate, ça analyse, ça regarde, ça pense. Et comme Sandrine, elle avait dit, de se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ou peut-être même, qu'est-ce que moi je voudrais qu'on fasse? Et souvent, on reconnaît au fait, je ne peux rien faire parce que la personne, elle doit apprendre à faire elle-même. Et ça, je peux lui aider. Et puis de nouveau, ce souhait, quand il y a l'amour, quand on voit que l'autre personne, elle n'est pas heureuse, le souhait qu'elle puisse être libérée de souffrance, et les causes de la souffrance, ça vient très spontané. On n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. C'est là parce que c'est une partie de nous, c'est une partie de notre nature de Bouddha. La partie d'un esprit. De comprendre que souffrance, ce n'est pas bien. La souffrance, elle a des causes, donc on peut éliminer les causes. Mais essaye de sentir l'énergie de la compassion. Elle est très, très forte. Et si on se sent impuissant, elle se tourne contre nous. Et ça ne sert à rien du tout. Parce qu'après, il y a deux qui souffrent. Donc, on peut peut-être comprendre, pour le moment, activement, je ne peux rien faire. Mais je peux m'entraîner à tenir mon cœur ouvert, que je puisse t'écouter sans que je me ferme. Sans que je m'énerve, sans que je me sens impuissant et nul. Et souvent, on confond la compassion avec la pitié. Donc, on voit quelqu'un qui souffre et puis on pense, ouh là là, qu'est-ce que je suis content que je ne suis pas dans cette situation. De nouveau, dans quelques situations, cette pensée, elle est très utile, mais pas dans celle-là. Parce que ça vous sépare de l'autre personne. Ça vous met en haut. Et vous regardez en bas. And it doesn't heal. Ça, c'est pas, ça aide pas du tout. Mais souvent, on fait ça. On peut pas vraiment s'imaginer à la place de l'autre. Parce qu'on voit que la souffrance grossière, la souffrance de la douleur. Mais on est exactement dans la même place que l'autre. On a la souffrance du changement et on a aussi la souffrance omnipénétrante conditionnée. On est tous la même chose. Seulement chez l'autre, le karma négatif a donné un autre fruit qui est aussi la souffrance de la douleur. Que moi, j'ai le potentiel d'aller là. La compassion, quand on peut activement rien faire, ça peut être une présence très tendre, une ouverture de cœur, même qu'on sait qu'on peut rien faire. Où on voit notre douleur et la douleur de l'autre. Sans ressentiment, sans aversion. La compassion, elle peut embrasser tout. Et on a besoin de jeter personne de notre cœur, parce qu'on est tous dans le samsara. Ok, de nouveau, pensez à la personne que vous aimez bien. Et puis, on va pratiquer ou ressentir la joie. Donc, la joie, c'est de voir le potentiel de quelqu'un. De voir le potentiel d'être heureux. Et puis, bon, ben, si la personne, elle est heureuse aussi, il y a beaucoup de joie là-dedans. Ou quand la personne, elle a du succès. De nouveau, quand on aime la personne, ça vient tout seul. Et puis, allez de la tête au cœur. Cette personne vous dit, waouh, j'ai réussi. C'était dur, mais ouf, j'ai réussi. How does it feel? L'énergie de la joie, le bonheur de l'autre devient le vôtre. On n'a pas besoin de se comparer. Oh, son succès est plus grand que le mien. Non. Et là, la jalousie, elle vient très vite quand on pense qu'on est nul. Mais quand on parle de sympathetic joy ou de la joie, on parle surtout qu'on sait que tout le monde peut devenir un Bouddha. Il n'y a personne qui doit, mais tout le monde le peut. Et cette nature, ce potentiel, on ne peut jamais le perdre. Il est toujours là, chez tout le monde, tous les êtres, tous ceux qui ont un esprit. Et je pense quand les Bouddhas, ils nous voient, et puis qu'ils nous voient qu'on fait des conneries, c'est comme une maman qui voit son enfant, que normalement il va assez bien, mais des fois il fait vraiment des bêtises, elle dit, oh oui, oui, c'est juste une phase. Ça va passer. Parce que le potentiel d'être sage, compassionnant, il est là. Et les Bouddhas, ils le voient. Nous, on ne le voit pas. Après, on touche vite à l'équanimité. Donc, cette personne, pourquoi on a un cœur ouvert envers cette personne? C'est pour ça que c'est bien de prendre un ami et pas un enfant. Parce qu'avec l'enfant, avec votre enfant ou petits-enfants, le cœur, il est vraiment ouvert. L'amour, elle est assez pure. Bon, ben, c'est aussi attachement, parce que c'est mon enfant. Mais si vous prenez un ami, cet ami, il est normalement ami parce qu'il fait ce que je veux qu'il fasse. Il me montre mes côtés positifs parce qu'il ne m'énerve pas. Parce qu'il a des mêmes opinions, il fait les mêmes choses, il aime les mêmes trucs. Il a les mêmes vues politiques. Il aussi, il s'en fait pour l'environnement. Il fait attention. Et on croit que ce cœur ouvert, il est spontanément et puis il est vraiment là. Et puis on ne voit pas qu'on projette quelque chose sur cet ami qu'au fait, il n'est pas là. On projette la permanence. Cet ami, il va toujours être ami, il va toujours avoir les mêmes opinions, il va toujours prendre soin de l'environnement, il va toujours venir avec moi dans le groupe bouddhiste, il va toujours aimer les mêmes films. Mais imaginez cet ami tout à coup, pas seulement avoir des autres opinions, mais essayer de vous convaincre qu'il faut voter pour une autre partie qui est de droite, qui commence à dire, ouais, mais de toute façon, tu sais, l'environnement, il est déjà foutu, et puis que moi, je jette ma bouteille en plastique ou pas, qu'est-ce que ça fait aucune différence. Est-ce que le cœur ouvert, est-ce qu'il est encore aussi ouvert qu'au début? Donc maintenant, puisqu'on parlait de compassion avec sagesse, parce que maintenant, on peut retourner indifférent et dire, OK, ben c'est son droit de jeter sa bouteille de plastique, parce que c'est vrai. Pour le moment, il n'y a pas de loi. Et ça, c'est l'indifférence. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cet ami qui jette son plastique dans la forêt? Donc, vous voyez, on commence avec les petites choses, pas avec ceux qui ont beaucoup de pouvoir et tout ça. Donc, c'est ces catégories qu'on fait, ami, ennemi, stranger, étranger, ben c'est, tu sais, on fait comme des traits noirs autour et puis ça va toujours rester comme ça. C'est pour ça qu'on est déçu après, quand les amitiés, ça casse. OK? Alors, ce que vous allez faire avec cet ami qui cherche ses bouteilles en plastique dans la forêt, ça, c'est votre affaire, ce n'est pas la mienne. Donc, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec cette personne. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous feriez avec une personne comme ça?
Moi, je ramassais les bouteilles quand on marchait en groupe. Et puis à la fin de la journée, quand on se disait au revoir, je disais, toi, tu as perdu ça, je te redonne.
Oui. Donc, OK, il ne faut pas oublier l'histoire avant. Hein? Parce que cet ami, il était comme nous. Et puis là, il a changé son opinion parce qu'il a dit, ça ne sert à rien. Pas facile, hein?
Non.
Déjà, ramasser les bouteilles et puis les jeter sans s'énerver, c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Je sais pas si cet ami va aimer que tu lui redonnes les bouteilles, parce qu'il va les rejeter, il dit ça sert à rien.
Normalement, ils font une drôle de tête.
Hein?
Normalement, ils font une drôle de tête et puis ils disent « ça, c'est bien toi
». Ça, c'est bien toi.
Ouais. Puis, des fois, je les remets dans mon sac, tu vois, puis je les jette moi. C'est pas important.
Si, c'est important, parce que
Non, je dis « c'est pas important, c'est une fiche de moi,
je les mets dans
mon sac ».
Déjà, on n'arrive pas à faire à vraiment savoir sagement ce qu'il faut faire dans une situation comme ça.
Non, c'est pas vraiment.
Est-ce que je lui montre t'es mauvais et puis parce que quand tu dis regarde, je te redonne, ça lui fait quand même une sensation pas très agréable quand tu fais. Mais de nouveau, mais peut-être ça lui fait changer son avis. Si je ramasse moi et je mets dans ma poubelle, est-ce que ça aide vraiment? Je suis vraiment contente qu'on finisse sur ce truc-là parce que ça nous montre « you cannot fix samsara ». Ça nous montre, la seule chose qu'il y a à faire, c'est que Sandrine l'a dit, il faut sortir du samsara. Il faut devenir un Bouddha. Ça, c'est la seule solution du problème. Nous, on est toujours en train de vouloir fixer le samsara, tu vois, de vouloir réparer ou le mettre bien pour que tout le monde puisse être content et heureux et en harmonie, sans conflit et tout ça. C'est pas possible. On peut essayer et on peut dire s'il y a quelque chose qui n'est pas juste et tout ça, mais servez-vous aussi un peu de votre temps justement de travailler avec votre esprit, d'étudier la vacuité et de développer la bodhicitta. Ok. Et puis, faites peut-être aussi un peu comme le Dalai Lama, quand il a été demandé beaucoup de fois. Chaque fois, il y a cette question, qu'est-ce que je fais si j'ai une mauvaise estime de moi? Et puis, il a dit, arrêtez avec ça, parce que vous prenez pour qui? Il a dit, regardez, parce que le Bouddha, il a échoué. Jésus, il a échoué. Mohammed, il a échoué. Même Dieu, il a échoué. Parce que tous ces êtres, ils voudraient que tout le monde soit content. Ils n'ont pas réussi. Et puis vous croyez que vous allez réussir de mettre tout le monde content et heureux? Non, c'est de nouveau, c'est de l'arrogance. C'est cette arrogance de penser qu'on peut vraiment faire une différence tant qu'on n'est pas un Bouddha. C'est un peu cette, mais de nouveau, ça ne veut pas dire que vous devez rien faire. Please don't misunderstand me, ok? Vous avez compris ça? Ça ne veut pas dire que vous devez rien faire jusqu'à l'éveil, parce que si vous voulez atteindre l'éveil, il faut du karma positif. Comment vous allez vous chercher le karma positif en aidant les autres? Mais quand vous aidez les autres, au moins faites-le comme ça. Par exemple, Jean-Paul avec le centre, il vous donne l'opportunité de pratiquer la générosité.
Yes.
Donc, au lieu de vous sentir « Waouh, regarde-moi, je suis généreuse, je donne, j'aide le centre à payer le loyer », vous pensez « Oh, merci Jean-Paul, tu m'aplatis mon chemin pour l'éveil. » Et puis, comme ça, votre acte de générosité, il y a beaucoup plus de joie là-dedans. Et puis, il va, votre argent, il va beaucoup plus loin que de juste payer le loyer. Autrement, c'est juste payer le loyer. Ça ne va pas plus loin. Mais si vous pensez, le Ketun Drupa me donne la possibilité de pratiquer la générosité, ou quelqu'un d'autre, hein, ça ne doit pas être eux seulement. Chaque fois que vous donnez quelque chose, dites merci. Sentez-vous comme celui qui reçoit. Et pas celui qui donne. Parce que après, il y a beaucoup plus de plaisir à donner. Sinon, il n'y a pas de plaisir. Sinon, il y a peut-être je donne trop. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Non, ça ne vaut pas la peine de donner si vous donnez avec une attitude comme ça. Il vaut mieux pas donner. Et puis, travailler avec l'attitude d'abord. Pourquoi je donne? Parce que. Ah oui, je suis Bodhisattva. Ah oui, j'ai pris les vœux de Bodhisattva. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai des initiations. Alors, puisque j'ai des initiations, de toute façon, j'ai des vœux de Bodhisattva. Si j'ai des vœux de Bodhisattva, de toute façon, je dois pratiquer les 6 perfections. Ben voilà quelqu'un qui me donne l'opportunité for free, juste là. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le bouton. Vous ne le sentez même pas. Moi, je trouve ces trucs de cliquer sur le bouton, c'est super, c'est sans souffrance. Ouvrir le porte-monaie, sortir les billets, aller à la poste, les donner à quelqu'un. Là, toc. C'est pas facile. Ok, on va peut-être arrêter là. Je suis désolée parce que je dois faire quelque autre chose à midi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on continue parce qu'on n'a toujours pas parlé comment développer la bodhicitta. Hein.
Ouais, le sang, si je te propose volontiers de peut-être pas. Tu me disais le 2 mai ça va pas, le 9 ça va pas, mais est-ce que le 16 et le 23 ça irait?
Mm-hmm. Je crois, oui.
Ouais. Quand même qu'on apprenne à développer la bodhicitta, quoi.
Tu crois qu'on va y arriver?
Bah, on verra quand.
Tu sais, le truc avec la bodhicitta, c'est tellement... Parce que ce qu'on a parlé aujourd'hui, moi, je peux parler parce que là, j'ai vraiment... Parce que je suis pareil, tu vois. Donc, je peux parler de quelque chose que moi, je ressens et puis j'essaie d'employer les méthodes et puis je vois comme ça marche ou comme ça ne marche pas. Quand je parle de bodhicitta, moi, j'ai... Tu vois, c'est tellement loin. Donc, moi, je préfère que ce soit les maîtres qui le font aussi. Mais on peut aller avec les étapes, on peut essayer, mais je préfère parler quelque chose que je comprends, quoi, qui est plus près, qui est plus près de moi. Donc, mais on peut après, si tu veux.
Volontiers.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Et puis, juste de revenir à ce que tu disais au début par rapport à Sophie, il n'y a rien de grave ou bien
ouais. Non, il y a un vieux monsieur qui... Ah oui, on a encore quelques minutes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rester assis, quoi. Il y a un monsieur qui, dans le garage, lui est rentré dans sa voiture, dans sa princesse. Mais devant, c'est... Tu vois ? Alors, le monsieur, il est sourd, il ne voit pas bien, il ne devrait plus conduire. Donc, ce matin, elle doit aller à la police, je pense, pour faire un constat. Alors, elle a dit, comment je vais, là ? Parce que le monsieur, il ne va pas aimer qu'on lui enlève son permis, par exemple. Et j'ai dit, ben vas-y en chainlessig, tu vois, avec compassion pour le monsieur, mais avec la sagesse aussi, qu'il est un danger pour beaucoup de monde. Donc, vraiment, ok, il ne va pas aimer, mais quand même. Alors, mais là aussi, tu vois, quand on parle comme ça, il y a notre ego qui ouvre les oreilles, qui dit, ah, je peux le faire arrêter. Conduire ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est tellement difficile. Ouais. Mais de s'imaginer, ok, je vais. Si, bon, Chainlessig, c'est un peu loin, mais de s'imaginer, par exemple, je vais en l'Amazon, pas. Qu'est-ce qu'il ferait? Pour pas que ça tombe dans la idiot compassion. Mais souvent, on aime bien laisser la idiot compassion et puis d'être bon et gentil de côté. Tu vois? Mais après, ça devient égoïstic compassion. C'est ça, c'est pour ça cette méditation que vous faites le lundi avec Séverine. Si vous le faites pas, si vous faites pas ça aussi à la maison tous les jours, même si c'est que 10 minutes ou 20 minutes, il y a rien qui va se transformer parce qu'on reconnaît pas vraiment nos attitudes, on reconnaît pas vraiment notre motivation derrière pourquoi on le fait.
Okay.
Pour ça, la pleine conscience, la vigilance, c'est that's it. Sinon, c'est que théorie. Et puis après, ce qui est plus dangereux en plus, on croit qu'on fait quelque chose et c'est fait par compassion par l'autre. Mais on ne remarque même pas que ce n'est pas vrai. Et on se crée un tas de karma négatif comme ça. Quand on se cache inconsciemment presque derrière la compassion. Et si vous voyez que vous faites par égoïsme, c'est ça, ça suffit, tu vois. On n'a pas besoin de « Ah non, alors je ne peux pas faire parce que c'est égoïste. » Ça suffit de le voir. Parce que chaque fois que vous le voyez, vous coupez un petit peu l'habitude de le faire par égoïsme. Il suffit de le voir et le dissoudre. Comme ça, on crée pas, on fortifie pas la tendance ou l'habitude. On veut beaucoup trop après, on croit, oh je vois, je dois transformer, blablabla. Bla, bla. Non, il suffit de voir, et puis humour, s'ouvrir envers vous-même, que vous avez la compassion pour vous-même, que vous êtes égoïste. Ok.
Ok.
On n'est même pas des bébés bodhisattvas encore.
Embryon.
Oui. Oui, en riant peut-être. Voilà. Ok, donc on va voir avec toi ou avec Séverine à quelle heure, si toute la journée ou que la demi-journée. Ou... Ben, on peut demander à ceux qui sont là, qu'est-ce que vous préférez, deux fois une demi-journée ou toute la journée une fois?
Deux journées pour moi.
Hein? Deux journées.
Deux journées.
Ouais, moi aussi, parce que comme ça, vous avez le temps de digérer un petit peu. Est-ce que je vous avais donné une tâche la dernière fois?
Non.
Non.
Ok, mais je vais vous donner une maintenant, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous voudriez comme tâche? Au fait, ça c'est bien aussi, de demander si tu dois punition enfant et tout ça. Donc, c'est bien de les punir, mais laissez les choisir la punition. Donc, punition de leur enlever quelque chose, ça, ça ne marche pas. Mais de leur faire faire quelque chose, parce qu'après, ils ont fait quelque chose pour repayer. Ça, ça marche beaucoup mieux que enlever quelque chose. Et puis, discuter avec eux. Ok, tu as fait ça, qu'est-ce que tu crois que tu pourrais faire pour que ça devienne de nouveau en équilibre? laver la vaisselle ou je ne sais pas, quelque chose qu'ils n'aiment pas trop faire. Parce qu'en plus, après, ils sont contents que la vaisselle, elle est propre. Ils ont vu que de faire quelque chose qu'on n'aime pas faire quand on le fait, ça nous rend vachement contents. Que de faire que ce qu'on aime. Après, on a beaucoup trop de pommes si on fait seulement ce qu'on aime faire. Après, les pommes, on les vomit, quoi. C'est bien qu'on dit, la dixième pomme, il la jette parce qu'elle dit qu'elle est imparfaite.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est la même pomme du même arbre.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que vous voulez comme pomme? Ok, on va faire comme ça. Je voudrais quand même que vous faites quelque chose. Chacun choisit sa propre tâche, ce qu'il va faire pendant ici et quand on continue. Ok?
Ouais.
Après, on en discute quand on commence.
D'accord.
Vous nous dites ce que vous avez fait, parce que vous voulez faire du progrès, non?
Oui.
Mm-hmm. Voilà. Donc, si on ne fait pas ça, si on écoute, on écoute, on écoute... C'est bien, on a écouté, mais il n'y a rien qui a transformé. Donc il faut aussi s'entraîner. Voilà, si vous êtes Sylvie, je vois que vous êtes en couple, donc vous faites une tâche, tu demandes à l'autre, est-ce que tu crois que c'est une bonne tâche que je me donne là? Donc, et allez pas trop loin, pas trop haut, pas trop difficile, ok? Mais aussi pas trop facile. Commencez à prendre responsabilité pour vous-même. Sans jugement, sans... mais avec beaucoup d'intérêt. Et puis, comment faire un jeu? Pas un jeu, un jeu. Ok? Si on échoue, ben on recommence. Soyez un peu plus léger dans votre transformation bouddhiste, là, parce que sinon, vous... des fois, les Occidentaux sont tellement sérieux, ils sont tellement... Tu vois? Amenez un peu de légèreté là-dedans. Ok, comme un jeu. Et un jeu, si on a perdu, vous y a pas, on recommence. Pas grave. Okay. Allez, bonne chance. Peut-être je vous vois, mais en spectateur. Moi, je préfère être spectateur que blablabla. Peut-être je vois en spectateur à 2 heures avec Charles, et ou bien 7 heures avec Keshi Sherab, ou bien demain à 2 heures avec Keshi Tashi. Donc, Keshi Tashi, Keshi Sherab, les deux, ça va être en anglais. Mais Charles, bien sûr, c'est en français. OK?
Donc, nous, pardon, je n'ai pas compris. Donc, nous, comme on a fait ce matin, on se revoit quand?
Le 16.
Le 16. Okay. Le 16 et le 17, c'est ça?
23.
On a discuté le sang. Okay. On va en parler.
Moi, je préfère deux fois une demi-journée qu'une fois une journée entière.
D'accord. Donc...
Et puis après, tu vois, on peut aller de là. On voit la situation, comment c'est, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête.
D'accord.
Il y a aussi, je crois que je vous ai dit l'autre fois, parce que j'ai dit la prochaine fois, et puis quelqu'un, tout de suite, un chat, « Oh, is it going to be the last session ?» La prochaine fois, j'ai dit, écoute, hein, ça pourrait être déjà maintenant, the last session. On ne sait pas, tu vois, on fait des plans, et puis ouais, peut-être oui, peut-être non. Ouais.
Alors, tu peux m'envoyer le lien, le sang, ton lien pour le Zoom?
Pourquoi?
Pour le 16.
Le 16 mai. C'est Séverine qui peut le faire.
Ah,
non,
Séverine.
Tu n'avais pas dit que tu voulais faire un lien qui restait le même?
Moi?
Je peux refaire un lien, il n'y a pas de souci.
Ah non, moi, je n'ai pas trop compris. On peut faire un lien qui reste le même, mais après, ça ne le met pas dans le calendrier, alors je dois quand même tous les jours...
Non, je le fais.
Ouais, moi, je trouve que c'est plus facile de faire un lien. Tu vois, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est le lien. Et puis après, c'est dans le site, et puis on clique dessus, puis on est dedans. Moi, je trouve que c'est le plus facile. Et là, okay. Ça, je l'ai automatiquement sur mon calendrier Google aussi.
Merci Séverine.
J'ai pas regardé encore comment faire avec le même lien et puis que c'est dans le calendrier. Okay. Si tu peux faire le lien, c'est parce que comme ça tu es le hôte et puis sauf si tu peux pas, si tu veux ou si tu peux pas participer, après tu donnes, je le ferai.
Si non, mais a priori c'est bon.
Ok. Allez,
merci.
Ciao.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne chance de transformation. Oui. Caro, je t'envoie le link.
D'accord. Et Séverine, je prendrai Souria aussi.
Ah, c'est gentil. Merci.
Oui. D'accord. Ce merci. Matin, on a montré la photo de Souria dans oui. la boutique. Elle a une photo de Somme.
Simis.
Ouais. Voilà, Simis. Donc, et puis j'ai dit aux gens, s'ils ont des dédicaces spéciales, puis s'ils veulent montrer les photos, parce que après le cœur, il est beaucoup plus là, tu vois. Mm-hmm. Ce matin, on a vu le chien qui est encore en vie, il était ouais, là, il a dormi. Et puis, tu vois, déjà, on se réjouit pour sa bonne renaissance. Mm-hmm. Qui peut quitter son corps parce qu'il a une tumeur. Il est confus, donc on est content pour lui que l'esprit qui n'est pas souffrant, qui peut quitter ce corps, et puis qu'on peut aider. Donc là, après, il y a beaucoup plus de substance dedans que si on fait pour tous les êtres. Mmh. Okay.
Ok. À tout à l'heure.
Ok, tout à l'heure. Bye bye.
Merci.
Merci.
Au revoir à tout le monde.
Au revoir.
Et ça sera Séverine qui devra faire. Bye. Bon week-end aussi.
Bon week-end. Bye. Une minute, oui. Attends. Non, ça finit maintenant.